Alors, lors de notre première rencontre, nous avons essayé de comprendre, en quelque sorte, la nature de l'évangélisation. En quoi est-ce que l'évangélisation fait partie du projet de Dieu et en quoi est-ce qu'elle consiste ? Cette fois-ci, aujourd'hui, nous allons réfléchir non pas directement sur l'évangélisation elle-même, mais sur notre époque, c'est-à-dire comment est fabriqué en quelque sorte l'homme contemporain, ce qui nous amènera à réfléchir du coup à quel est son rapport à une évangélisation éventuelle. Est-ce qu'il attend quelque chose ? Qu'est-ce qu'il attend ? Ou alors quels sont au contraire les obstacles qu'il peut connaître par rapport à l'accueil de l'Évangile. Et ça nous permettra, lors de notre troisième et dernière rencontre, de réfléchir à la question de ce que Jean-Paul II a appelé la nouvelle évangélisation, puisque si on comprend mieux comment est fait l'homme d'aujourd'hui, on comprend mieux aussi quelle forme nouvelle est appelé à prendre l'évangélisation pour tenir compte justement de ces, à la fois de ces difficultés et de ces attentes de l'homme contemporain et des formes qu'elles peuvent prendre actuellement. Alors, nous allons faire un parcours aujourd'hui extrêmement prétentieux puisque nous allons résumer quelques siècles en quelques minutes. Nous allons voir un peu ce qu'on commence à appeler de plus en plus la postmodernité, donc notre époque en quelque sorte, mais comme le mot l'indique, ça suppose sans doute de comprendre un peu ce que signifie la modernité. Et en réalité, on va voir que toutes ces époques, si j'ose dire, ont profondément à voir avec la foi chrétienne. Donc, remontons très loin à l'écroulement de l'Empire romain. Donc, vous voyez, on ne lésine pas sur le retour en arrière. L'écroulement de l'Empire romain. Ce qui s'est passé à cette époque-là, l'Empire romain était devenu assez largement chrétien quand il s'est écroulé, donc l'Empire romain d'Occident, j'entends, hein, puisque l'Empire romain d'Orient perdurera jusqu'au seuil de la Renaissance, hein, mais l'Empire romain d'Occident était devenu chrétien, mais s'écroule sous les fameuses invasions barbares. Et en réalité, ce qui se passe, c'est évidemment un tremblement de terre de civilisation, c'est une civilisation entière qui s'écroule, mais ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'une seule réalité est restée à peu près debout à cette époque-là, une seule réalité institutionnelle, et c'était l'Église. C'est-à-dire, en gros, tout s'est écroulé sauf les institutions d'Église. Et ça signifie que dans ce qui s'est reconstruit derrière, et donc ce qu'on appelle le Moyen-Âge, hein, ce qui s'est reconstruit derrière s'est reconstruit très largement à partir de l'Église et de ses institutions et de sa foi. Et on ne mesure pas à quel point, aujourd'hui encore, nous sommes les héritiers de ce qui s'est passé à cette époque-là. C'est-à-dire beaucoup de choses qui sont devenues pour nous des choses tout à fait évidentes et par ailleurs souvent des réalités d'ordre profane, nous n'imaginons pas à quel point en réalité elles n'auraient jamais existé s'il n'y avait pas eu la foi chrétienne dans notre pays et l'institution ecclésiale. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples de cela, de toutes sortes de niveaux. Voyez, qui a inventé les hôpitaux ? Eh bien, ce sont les chrétiens. Avant, on ne soignait pas les gens en hôpital. Il a fallu que des chrétiens inspirés par l'Évangile et ayant compris que quand on soigne le plus malade et le plus pauvre, on soigne le Christ lui-même. Eh bien, il a fallu cette inspiration chrétienne pour du coup faire une proposition beaucoup plus forte et vigoureuse en direction de tous ceux qui souffraient et qui étaient malades. Hein? Donc l'hôpital, une invention chrétienne. Qui a inventé les universités ? Eh bien, les universités ont...